Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. On a beau nous seriner régulièrement le fait que notre pays, et l'Europe en général, soit avant tout une terre d'histoire où l'entretien de la mémoire est un des rouages essentiels qui forgent nos identités, ça n'empêche pas, bien au contraire, de devoir jongler avec des éléments du passé qu'on peine à adresser de manière frontale. C'est tout à fait saisissant si on s'intéresse au cas de l'Espagne. Le pays a longtemps été hissé en exemple pour sa transition démocratique réussie après 36 ans de dictature franquiste, mais tout ça s'est fait au prix d'un pacte du silence que de nombreuses voix, notamment des descendants de victimes du franquisme, appelle à briser, mais que les pouvoirs publics espagnols refusent pour l'heure d'affronter. Et ce, alors même que l'extrême droite espagnole rencontre un succès grandissant. Extrême droite incarnée par le parti Vox, où grenouille justement un certain nombre de nostalgiques revendiqués du franquisme. Cette obstination très risquée à vouloir maintenir cette période si proche dans l'ombre, elle nous interroge et elle va nous guider pour notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Bon, comme ça, vous m'entendez bien ? Je suis un de ceux qui ont été renvoyés de chez John Deere. Et moi je vous le dis, il faut que la lutte continue.
Animaros a que sigáis para adelante y que penséis que de ahora en adelante ni un solo convenio, ni una sola reivindicación de fábrica va a ser de tal fábrica, que será de toda la zona. Saludos, compañeros.
Il y a quelques jours, fin janvier, dans la cantine d'un collège religieux, dans la banlieue de Madrid, une réunion d'ouvriers en grève, à visage découvert. Une situation qu'il aurait été impossible de filmer il y a 3 mois. Comme il aurait été dangereux et irresponsable de vous montrer les visages de ceux qui disent aujourd'hui ce qu'ils ont sur le cœur. Le spectacle de la rue à Barcelone, à Madrid, a changé. Ce qui hier était interdit s'est transformé en possible.
Clairement, les choses en Espagne sont en train de changer, en partie grâce à un film dont il sera question plusieurs fois dans cet épisode, Le silence des autres, d'Almudena Caracedo et Robert Bahar, un documentaire au succès grandissant qui raconte comment l'Espagne a choisi de mettre de côté la période franquiste et les nombreux crimes qui y sont associés, notamment via une loi d'amnistie générale votée en 1977. Pour mieux comprendre ce virage important, j'ai passé un petit moment à en discuter avec Manuel Peloual. Elle est professeure à l'université d'Angers, spécialiste du franquisme. Je lui ai demandé de nous raconter comment cet oubli généralisé s'est mis en place.
Déjà, je préciserai que Franco, quand il meurt, il avait ce qu'il avait dit. Il avait dit qu'il avait tout laissé atado bien atado, tout ficelé bien ficelé, puisqu'il avait choisi son successeur et il avait demandé à son successeur, donc Juan Carlos, de prêter serment au principe du régime franquiste. Mais avant de parler de la loi d'amnistie, c'est important de savoir qu'en 1976, les Cortes franquistes se font harakiri, l'expression est consacrée, pour admettre le principe d'un régime démocratique et pluraliste. Donc ça, c'est un élément très important. Ensuite, la loi d'amnistie, elle avait été faite, c'est la loi de point final, mais elle a été faite pour tout le monde, c'est-à-dire notamment pour les républicains qui avaient été emprisonnés. Bon, on n'a pas annulé les sentences franquistes, mais c'est notamment pour les républicains, c'est aussi pour les droits communs et c'est évidemment pour les criminels franquistes. Mais il faut voir qu'à l'époque, il ne faut pas le juger, à mon avis, avec la vision de maintenant, puisque à l'époque, il faut voir qu'il y avait des forces qui étaient extrêmement accrochées à leur pouvoir, qu'il y avait un climat de discorde civile, de violence extrême, et que à cette époque-là, on peut penser que cette loi était tout à fait justifiée, même si bien sûr beaucoup de personnes pouvaient se sentir lésées. Mmh. Mais à l'époque, cette loi a été très populaire, c'est-à-dire que même les gens, tout le monde y avait intérêt quand même. Hein. Mmh. Donc voilà. Et c'est si on prend les phases, c'est-à-dire qu'il y a cette loi d'amnistie qui est générale pendant jusqu'à la fin des années 90, ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. Juan Carlos était populaire, ses frasques étaient passées sous silence ou étaient plutôt sympathiques. Économiquement, ça se passait plutôt bien. L'Espagne sortait de la crise des années 70, il y avait une stabilité. Et donc, on a commencé à remettre en cause cela. C'est avec la génération des petits-enfants à partir des années 2000. Hein. Il y a des caravanes de la mémoire, il y a eu des films, il y a eu la littérature, l'historiographie, un retour même de la justification du franquisme dans l'historiographie, etc. Et donc, s'il y a eu vraiment à peu près 25 ans, disons, de relative stabilité, d'oubli volontaire. Hein, Paul Ricoeur parle de cette décision d'oubli qui peut correspondre à un bien, une nécessité publique à un moment donné. Et à partir des années 2000, on rompt avec cette décision d'oubli. Et c'est là ce qu'on a maintenant avec des films, par exemple, comme Le silence des autres, hein, qui est un film vraiment très, très bien fait, et qui, lui, d'ailleurs, revient non seulement sur les crimes franquistes, mais aussi sur les, justement, les bébés volés, c'est-à-dire que les crimes franquistes... il faut savoir que l'estimation des fusillés entre 1939 et 1945, hein, la loi du vainqueur, c'était minimum 140 000. Les bébés volés, au départ, c'était arracher les enfants de rouge à leur mère parce qu'il y avait même la théorisation du gène des rouges, etc. Et puis, bien sûr, les emprisonnements, les travaux forcés, etc. Donc, il y a eu vraiment une répression massive et la génération des petits-enfants prend ça en main.
Avant de poursuivre notre discussion avec Manuel Pelloual, arrêtons-nous un instant sur le problème spécifique de la transmission du passé. Car des deux côtés, chez les franquistes comme chez les républicains, le silence a rendu le travail de mémoire extrêmement difficile. Les descendants des républicains, dont une bonne partie s'est exilée en France, bataillent par exemple souvent avec leur propre histoire. C'est le cas d'Emita Diaz de Bégard, vice-présidente de l'association des fils et filles de républicains espagnols et enfants de l'Exode. Elle a raconté son expérience à Caroline Fillette.
Moi, je suis dans le cas de figure où mon père ne m'a absolument rien dit. Et lorsqu'il est mort, j'avais 38 ans. Le jour de sa mort, j'apprenais qu'il ne portait pas son nom et qu'on ne portait pas son nom. Donc, je réalisais, le ciel me tombait sur la tête. En plus d'avoir le cœur brisé, le ciel me tombait sur la tête. Et je réalisais qu'en mourant, il emportait avec lui tous ses secrets. Cette histoire de vie, pourquoi on lui avait changé le nom, qu'est-ce qu'il avait fait, qui il était exactement. Et alors, en fait, c'est à partir de là que... j'étais jeune, j'avais 38 ans, mais et j'étais encore en activité, mais dès que j'ai pu, c'est-à-dire à la retraite, j'ai eu un besoin, avec une de mes sœurs, de rechercher cette histoire. Il fallait que je la comprenne. Ma mère était aussi décédée. Ma mère ne savait pratiquement rien sur son parcours. Elle savait des choses, mais pas tout. Et elle avait elle-même été victime du franquisme. Elle a été exilée aussi avec ses parents, mes tantes, mes frères et sœurs, mes cousins, cousines. Toute la famille maternelle, une grosse partie de la famille maternelle a été exilée en France, est exilée en France. Et donc, pour nous, a commencé une véritable croisade, hein, parce que quand on a changé de nom, on a eu besoin de deux historiens, de deux docteurs en histoire qui nous ont aidés à faire des recherches, parce que pour nous, c'était impossible. Moi, j'ai fait je ne sais combien de voyages à Paris, aux Archives nationales, en cherchant, au nom de Diaz de Bégard, je pouvais toujours chercher, je n'aurais rien trouvé. En tant que républicain, il est arrivé en France sous un autre nom. C'est un réseau de solidarité français qui lui a changé le nom pour le protéger, protéger sa famille et protéger aussi, mon père était lieutenant-colonel dans l'armée républicaine, donc il faisait partie de l'état-major de l'armée républicaine, donc il avait des responsabilités vis-à-vis du gouvernement républicain, vis-à-vis de l'armée républicaine, il avait des responsabilités. Donc pour protéger tout ça, on lui a changé son identité. Mais là, je vous le dis parce que maintenant je sais, mais quand il est décédé, j'avais 38 ans, j'ignorais tout. Donc ça a été un parcours du combattant qui nous a permis aujourd'hui d'avoir accès à son dossier de la résistance, parce qu'il s'est battu ici aussi. Il s'est battu contre Hitler, il a voulu aider les Français à se débarrasser du fascisme hitlérien. Donc, il avait un gros dossier de résistance, parce qu'il était dans 4 réseaux de résistance. Je crois que ça fait à peu près 2 ans qu'on a commencé à savoir, à connaître l'histoire de notre père. Voilà. On se rend compte qu'il y a 2 profils. Il y a ceux qui ont transmis, qui n'ont pas eu peur de transmettre, que ce soit oral, que ce soit écrit, que ce soit par la musique, que ce soit par la poésie, que ce soit... Enfin, il y en a qui ont transmis, hein, qui ont fait connaître à leurs enfants ce qui s'était passé, qui ont raconté. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas pu le faire parce que c'était trop, trop, trop douloureux. Et donc, quand ils ont compris que Franco resterait en place parce que les démocraties européennes ne feraient rien pour le déloger, ils ont compris que pour eux, l'Espagne, c'était fini. Il n'y avait plus d'Espagne. Ils ne pourraient plus jamais revenir en Espagne sous Franco, bien évidemment. Donc, et ils se sont dit, ben, on doit refaire une autre vie, on doit repartir sur d'autres choses. Et il faut oublier l'Espagne. C'est derrière, elle fait partie d'un passé, et il faut l'oublier. Donc, pour l'oublier, moi, je connais des enfants de républicains espagnols qui ne savent pas parler l'espagnol. On leur a même pas appris à parler l'espagnol. Donc, c'était vraiment une volonté de s'intégrer à la société française et de repartir sur d'autres bases, de se refaire une vie, de se reconstruire une vie, voilà, en oubliant l'Espagne.
Qu'est-ce qui explique, selon vous, que, contrairement à d'autres pays qui ont connu la dictature jusque dans les années 70-80, je pense à des pays d'Amérique du Sud notamment, qui eux aussi ont voté des lois d'amnistie, mais sont revenus dessus et ont permis, on va dire, l'organisation de procès et qui est un retour même juridique sur ces années-là, l'Espagne, elle, ne semble pas prête à le faire. Je parle de l'Espagne en tant que structure étatique, pour le coup.
Oui, alors l'Espagne, il faut savoir qu'effectivement, notamment, alors, il y a plusieurs raisons. J'avais demandé pourquoi on ne s'était pas préoccupé de cette question plus tôt, et les gens populaires me disaient, tu sais, il y avait, es que había mucho miedo por los pueblos todavía, la peur était encore présente, même après la mort de Franco, même après la fin de la répression, donc il y avait, de la part de la société civile, il y avait encore une peur résiduelle dans les villages, etc., puisque chaque village a été touché par la répression. Donc ça, c'est une chose. Il y avait aussi le spectre de la guerre civile qui a été agité pour de mauvaises raisons par les hommes politiques, mais qui était réel, puisqu'il y avait quand même des forces. Il faut savoir, dans les années 70, il y a des avocats qui avaient été assassinés, il y a des leaders ouvriers qui étaient assassinés dans le dos, hors de toute législation, de tout droit. Donc il y avait encore un climat de violence, et les gens voulaient quand même éviter cette violence. Et du point de vue des hommes politiques, on ne peut pas accuser par exemple le Parti Populaire, puisque même sous les socialistes, entre 82 et 96, les socialistes ont été au pouvoir et ne se sont guère occupés de ces questions. Et le Parti Populaire encore moins, évidemment. Donc ça, il y a eu beaucoup de facteurs. Il y a aussi le fait que les cadres franquistes les moins visibles sont restés en place très longtemps, c'est-à-dire que le franquisme dure 36 ans et que l'appareil d'État, l'appareil judiciaire et tout ça, évidemment, les forces de gauche, les forces civiles avaient été laminées, n'avaient pas forcément les moyens de remplacer tous les cadres. À ce moment-là, il aurait fallu, à mon avis, une révolution. Et ça, c'était pas forcément à l'ordre du jour. Voilà, ce sont des facteurs qui, à mon avis, peuvent aider à expliquer, si ce n'est donner une explication complète.
Si on parle de l'affaire particulière des bébés volés, vous avez commencé à l'esquisser. Comment elle se met en place ? Est-ce qu'on peut tout simplement expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de ces bébés volés ?
Oui, alors les bébés volés, bon, ça, c'est le trafic d'enfants n'est pas propre à l'Espagne, c'est quelque chose qui se passe dans le monde entier, mais il y a une particularité. Donc, quand Franco gagne en 1939, surtout les premières années, il veut vraiment éradiquer les rouges, et de manière même beaucoup plus massive, même qu'en Amérique latine. Donc ça va être emprisonnement, ça va être épuration des cadres publics, des fonctionnaires, de l'armée, etc. Ça va être la prison, ça va être l'assassinat, et ça va être aussi, donc l'idée était pour les femmes rouges emprisonnées, c'était d'arracher les enfants de rouges, de femmes rouges, à leur mère. Et il y avait un théoricien, Vallejo Nájera, il avait théorisé le gène rouge, et il disait il faut extirper ce gène, il faut donc séparer les enfants. Donc d'une part, il y avait une politique, disons, eugéniste du franquisme. Mais ce n'est pas le seul aspect. Il y a un autre aspect qui était, je dirais, bassement commercial, et qui a été pratiquée jusqu'aux années 80 et peut-être se pratique encore maintenant, c'était dans les hôpitaux ou dans les couvents, dans les maternités. Et qu'est-ce qui se passait ? Alors, il y a beaucoup de femmes à qui on disait, des femmes pauvres, pas forcément des rouges, à qui on disait, bon, ben voilà, votre enfant, il est mort. On ne donnait pas la cause, on ne montrait jamais le cadavre du bébé. Bon, mais à l'époque, c'était une époque assez agitée, et donc les femmes ne demandaient pas, ne réclamaient pas. Et on s'est aperçu dans les années 2000 que c'est, on avait des listes hein, sur les registres, tel enfant mort de cause inconnue, puis d'accord, il y avait des problèmes sanitaires, mais enfin quand même, ça a duré jusqu'aux années 50-60, et on a découvert que donc il y avait vraiment un trafic, on a découvert à partir d'un cas qu'il y avait un trafic d'enfants, c'est-à-dire que les bonnes sœurs, ou pas seulement hein, dans les hôpitaux, on donnait ou on vendait des enfants à des familles qui en avaient besoin, et de manière exponentielle. Alors le calcul, c'est entre minimum 30 000, mais c'est peut-être beaucoup plus. Et donc en Espagne, là, ça s'est organisé aussi, il y a des associations d'enfants volés qui se sont reconstituées. Et donc, c'est aussi en cours de traitement judiciaire.
Et c'est, parce que vous le disiez, il y a, on va dire, deux phénomènes quelque part. Il y a un vol d'enfants orchestré, enfin théorisé par le régime, et quelque chose qui relève plus du droit commun quelque part de l'égalité. Mais est-ce qu'ils sont liés les deux, cette activité, on va dire, des vols d'enfants dans les hôpitaux qui a duré plus longtemps même que le franquisme?
Disons, comme vous le dites, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, mais ça se recoupe, c'est-à-dire que le vol d'enfants rouges, ça a duré notamment les années 40. Après, distinguer, parce qu'il faudrait voir tous les cas, distinguer les vols qui sont justement vénaux, enfin commerciaux, de vols de femmes qu'on suppose être des femmes de mauvaise vie ou des femmes politiquement incorrectes, etc. Bon, là c'est difficile, hein, les deux se recoupent, et comme l'Église était effectivement la gardienne de l'ordre social. Bon, après, c'est à mon avis une tradition, c'est pas nouveau, l'Espagne ne l'a pas inventé, c'est une tradition qui se pratique depuis longtemps dans le monde, hein, et donc je pense que l'Espagne est un cas parmi d'autres. Mais si on voit la comparaison en Argentine, il y a eu 500 bébés volés, il y en a eu, c'est 500. L'Espagne, c'est au moins 40 000, que ce soit pour des raisons politiques ou vénales.
L'Argentine, puisqu'on en parle, elle joue un rôle assez décisif dans la reprise en main de la mémoire par les victimes du franquisme, puisqu'il se trouve que leurs plaintes et leurs demandes de réparation légale sont prises en main par une juge argentine, Maria Servini. C'est notamment l'un des points mis en avant par Le Silence des Autres, dont l'avocate Elena Gadjou est l'ambassadrice en France. Elle a expliqué à Caroline Fillette les raisons de ce parcours judiciaire hors norme.
C'est parti. Le fait d'être obligé de partir en Argentine, c'est parce que justement, à cause de la loi d'amnistie, la justice espagnole a toujours refusé de... il y a eu à peu près... Amnistie International a fait un rapport en 2017 où il parle de à peu près 115 000 plaintes qui ont été archivées, donc de victimes qui avaient porté plainte en Espagne. Donc en fait, face à cette porte close, il a fallu, considérant qu'on était face à des crimes contre l'humanité, et donc ce que comporte les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire une justice universelle et pas de prescription de ces faits, finalement les deux premières victimes qui ont décidé de porter plainte en Argentine en 2010. Ils l'ont fait en Argentine parce qu'ils se sont dit il y a quand même un océan entre les deux, donc les pressions seront moins importantes. Et puis surtout, il faut savoir que l'Espagne a jugé des crimes commis pendant la dictature argentine. Et donc finalement, c'était une manière aussi de se dire l'Argentine pourra faire de même par rapport à l'Espagne.
Combien de personnes ont porté plainte aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ils en sont près à, en fait, de 10 000 plaignants. Donc à peu près 600 plaintes et 10 000 plaignants en Argentine. En 2010, ils étaient deux. Une plainte et deux victimes.
Est-ce que vous pensez que la diffusion de ce film va libérer la parole et va donner envie à d'autres personnes d'engager des actions ?
La réponse est clairement oui. Déjà, la libération de la parole est très importante. Ce qui est clair, c'est que cette libération de parole comporte aussi énormément de prise de conscience et ensuite de se dire il faut absolument qu'on se joigne à cette démarche, que ce soit en Argentine ou en Espagne, où il y a une avancée importante, c'est qu'il y a quelques plaintes. Je crois qu'il y en a deux pour l'instant qui ont été finalement prises en considération par la justice espagnole.
C'est le minimum que nous pouvons faire pour remercier le caudillo pour l'Espagne qu'il nous a laissée. Aujourd'hui, regardez, l'Espagne est ruinée. Quand il était là, même si je n'ai pas vécu à cette époque, d'après ce que je sais et ce que les anciens m'ont raconté, l'époque franquiste a été la meilleure qu'ait connue l'Espagne.
La loi sur la mémoire historique, adoptée en 2007 par le gouvernement socialiste de Zapatero, prévoit que le site soit dépolitisé. Mais les habitudes ont la dent dure. Chants et saluts fascistes sont interdits sur l'esplanade, mais pas à l'intérieur de la basilique.
On a l'impression que, quelque part, que ce soit en Espagne ou même en Europe, on a du mal encore à voir le franquisme, la période franquiste, comme une vraie période de dictature, dans le sens où il existe encore, par exemple en Espagne, des organisations, des associations qui défendent la mémoire de Francisco Franco. On n'imaginerait pas une association faire pareil, en tout cas pas ouvertement, pas aussi ouvertement en Italie avec Mussolini, et encore moins en Allemagne avec Adolf Hitler, même si évidemment les cas sont extrêmement différents. Mais ça participe aussi peut-être de cette difficile mise à distance de ce passé.
Oui, c'est vrai que c'est toujours le même problème de ces cadres, de ces élites franquistes qui ont gardé un rôle social, politique, souterrain. Alors en France, en Italie, notamment en Allemagne, en Italie, effectivement, les associations sont plus souterraines. Ça ne veut pas dire qu'elles n'agissent pas, à mon avis. En Espagne, effectivement, elles se déclarent la Fondation Franco à Pignon-sur-Rue. Bon, après, ça reste quand même une minorité de gens. Alors il y a deux choses. Le franquisme, bon, il y a les franquistes, ceux qui défendent le franquisme idéologiquement, etc., mais qui sont une minorité agissante, mais bon, c'est quand même une minorité, parce que quand on voit parfois en gros plan les nostalgiques, mais dès qu'on fait un plan un peu moins rapproché, il n'y a quand même pas tant de monde que ça. Bon, ça c'est une chose. Mais il y avait des gens aussi, tous ceux qui disent avec Franco on vivait mieux. Pourquoi ? Parce que c'est avec Franco ou malgré Franco, pour beaucoup d'Espagnols qui n'étaient pas politisés, c'est-à-dire qui n'étaient pas dans le camp républicain, parce qu'il y a aussi, faut aussi voir tous ces Espagnols qu'on oublie, parce que c'était bien une dictature, c'était clair, surtout dans les premières années, dans les 10 premières années. Bon, et très très clairement, mais il y a toute une partie des Espagnols qui, ma foi, n'étaient ni rouges ni franquistes et qui voulaient, un peu comme en France, qui était une zone un peu grise. Bon, et ces gens-là, dans les années 60, ils ont accédé simplement, ils ont cessé d'avoir faim. Et c'est pas grâce à Franco, bien sûr, mais c'est à cette époque-là que ça s'est fait. Oui. Les gens, quand ils ont une chronologie du ventre, je dirais, parce qu'ils disent, voilà, on a arrêté d'avoir faim dans les années 60. L'Espagne était un pays où il y avait des problèmes graves avant Franco, après Franco, etc. Et ils ont accédé aussi à la société de consommation. Ils ont accédé même à tous les courants, etc. Et donc, quelque part, certaines personnes se souviennent des années 60 comme quelque chose quand même de modernisateur, malgré tout. Alors, à condition, comme ils disent tous, de ne pas parler de politique. Ça, c'était le maître mot à l'époque, parce qu'évidemment, ça pouvait vous attirer des ennuis jusqu'à la fin et même après. Hein. Mais il ne faut pas négliger. C'est pour ça, je pense, il y a d'une part les franquistes déclarés, il y a les gens qui étaient opposants, qui ont fait de la prison, etc., déclarés, et puis toute une frange de gens, mais qui n'est pas du tout négligeable, qui s'est accommodé du régime, et même les gens, par exemple, les grands chroniqueurs de El País, dans leur jeunesse, je ne les en blâmerai pas, mais dans leur jeunesse, ils ont travaillé pour des journaux du Movimiento, je ne donnerai pas de nom, mais c'est assez complexe, si vous voulez. C'est pour ça, je pense, le problème du franquisme, c'est d'abord, il a duré beaucoup plus longtemps que les dictatures d'Amérique latine, il a duré 36 ans, et il se trouve que sous Franco, l'Espagne a considérablement évolué. Donc il y a l'aspect dictature et il y a l'aspect que le pays a quand même changé. Alors parfois malgré Franco, hein, mais il s'est modifié et beaucoup de gens ont profité de ces modifications. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a quelque chose de difficile. On a du mal à prendre de la distance parce que bon, par sa durée, par son implantation et parce que beaucoup de gens qui maintenant sont parfois anti-franquistes de la dernière heure, si on regarde leur curriculum dans les années 70, ils n'étaient pas forcément pour, mais ils étaient quand même, disons, insérés, intégrés. Voilà.
Petite parenthèse à nouveau pour élargir un instant le spectre de notre réflexion et se poser la question de la place de la France dans la gestion de ce passé. On l'a dit, les républicains espagnols qui ont dû se résoudre à l'exil ont pour bon nombre d'entre eux choisi de fuir en France. Et leur arrivée à la toute fin des années 30 n'a pas été des plus simples. C'est en partie ce que raconte un autre documentaire sorti cette année, Harmonia Franco et mon grand-père, de Xavier Ladjointe. Caroline Fillette l'a rencontré, lui a demandé de nous rafraîchir justement la mémoire.
Je me suis évidemment longtemps posé la question comment aborder cette partie-là quand on apprend que mon grand-père était donc s'est battu pour la République, arrive dans un pays qui est un pays républicain qui défend les droits des hommes, et ils se retrouvent dans un camp improvisé, parce que c'était des camps improvisés. Quand les Espagnols sont arrivés en masse, certes, la France savait qu'il allait y avoir un exode, mais ils ont été un peu dépassés par l'ampleur de cet exil et sa soudaineté. Et donc, ils les ont parqués dans des pseudo-camps. Mais au début, c'était vraiment pas des camps, parce que mon grand-père dormait sur la terre d'un champ au Vernet d'Ariège. Ensuite, c'est devenu un camp, puisqu'ils ont construit, je pense, eux-mêmes leur baraque, je suis pas sûr. Et pareil, ma mère et ma grand-mère sont arrivées un peu plus tard, mais elles ont été accueillies dans un camp de concentration qui était sur la plage d'Argelès. Donc, imaginez, sur la plage d'Argelès, il n'y a rien. Et il y a 75 000 Espagnols qui débarquent là, qui étaient obligés de se terrer dans des trous pour pouvoir, contre le froid, parce qu'on est en février 39. Et ma mère et ma grand-mère ont eu la chance d'y arriver en 40, puisqu'ils sont arrivés après. Alors je me suis longtemps posé la question sur ces camps. Pourquoi tous ces camps? Parce qu'il y avait toutes les Pyrénées-Orientales, les plages, Saint-Cyprien, Sept-Fonds, il y avait le camp de Rivesaltes, il y avait vraiment énormément de camps. Et en fait, la politique française telle qu'elle a été affichée, c'était clair et net, c'était on parque ces Espagnols en attendant de les renvoyer. Il n'était pas question de les accueillir en France. Si bien qu'à un moment donné, ces Espagnols humiliés et souffrant des conditions dans lesquelles ils étaient arrivés en France, il y en a la moitié à peu près qui sont repartis en Espagne et qui ont dû affronter des représailles plus ou moins dures, dont certains se sont fait tuer ou torturer. Voilà. Donc effectivement, quand vous arrivez sur une plage, qu'il n'y avait pas d'eau, il a fallu installer des pompes, et je crois que ces pompes n'étaient pas saines et qu'il y a eu énormément de dysenterie. Il y a un moment donné, on se dit, bon, ben, finalement, je vais rentrer en Espagne, ça ne peut pas être pire, hein, ou ça peut être pire. Ouais. Mais il y avait clairement, il y a d'ailleurs une thèse de Maël Maugendre sur le camp du Vernet d'Ariège qu'il faut lire, et où elle affiche les textes objectifs français de l'époque, qui était, on renvoie ces gens chez eux. Il n'était pas question de les accueillir. Alors après, il faut se remettre dans le contexte. On était peu de temps après la crise de 1929. Il n'y avait pas du travail pour tout le monde. Et d'ailleurs, les Espagnols n'étaient pas autorisés à travailler. Ceux qui arrivaient à sortir des camps étaient dans des groupements de travailleurs étrangers, plus ou moins exploités, vraiment payés une misère. Et ils ont eu la chance d'avoir ces camps de travailleurs étrangers, parce qu'en fait, la guerre mondiale s'est déclenchée le 1er septembre 1939, et que les hommes, les Français sont partis à la guerre, et qu'il a fallu de la main-d'œuvre. Donc, à partir de là, on a commencé à faire travailler des étrangers, donc des Espagnols, et ces Espagnols ont pu avoir une situation, on va dire, avoir de quoi payer un logement, de quoi se nourrir, et à partir de là, ils ont commencé leur intégration.
Est-ce qu'il est encore temps de faire des procès, de faire un retour légal sur cette période-là, ou est-ce qu'il est trop tard maintenant ?
On n'a pas parlé de la loi de 2007, la loi dite de mémoire historique, mais cette loi de 2007, il faut savoir qu'elle a été précédée par une bonne centaine de dispositions qui, quand même, donnaient des compensations, alors minimes, hein, mais des compensations financières, alors oui, par catégorie, aux homosexuels qui avaient été réprouvés, etc., à d'autres. Donc il y avait eu toute une série, sous les socialistes et même sous le Parti populaire, il y avait eu une série de compensations. Il y a des choses qui n'avaient pas été faites, c'était les sentences militaires de tribunaux militaires qui n'avaient pas été, qui n'ont jamais été abrogées. Il y a cette loi et je perds le fil, pardon. on disait, pardon, c'était, je voulais aller sur. Ce qui est trop tard. Bon, alors déjà, il n'est pas trop tard. Donc, d'une part, ça se fait toujours et le film, je ne vais pas faire de la publicité pour ce film, Le silence des autres, mais c'est vrai qu'il explique bien, ça se fait, mais via l'Argentine, via une juge argentine qui essaye d'obtenir, donc de convoquer notamment donc, des criminels. Alors, il y en a plein qui sont morts, donc là, il est trop tard, mais aussi des gens qui ont torturé dans les années 60. Hein. Ça se fait par voie, effectivement, supranationale, par voie externe. En Espagne, c'est compliqué. À mon avis, il n'est pas forcément trop tard, notamment pour annuler, en tout cas, au moins pour une compensation symbolique, puisque beaucoup de protagonistes sont morts, évidemment. Il y a toujours le problème des fosses communes, simplement de récupérer les restes. Ça, c'est financièrement, c'est très compliqué. Il y en a 8 000 qui ont été exhumés, mais il y en a beaucoup plus qui sont encore là. Donc ça, c'est toujours possible, ça c'est infini. Après, ça demande une mise en œuvre de moyens que ni les socialistes ni le Parti populaire n'ont mis vraiment, parce qu'il faut mettre sur la table de l'argent et des troupes. Mais bon, pour moi, il n'est pas trop tard. Après, et c'est comme l'exhumation de la dépouille de Franco du Valle de los Caídos, hein, de la vallée de ceux qui sont tombés. Cette exhumation, donc, a été, pour l'instant, elle est retenue parce que ils se sont aperçus que la famille Franco avait une concession dans la grande cathédrale de Madrid et n'aurait donc le droit de mettre la dépouille du dictateur en plein centre de Madrid, ce qui est encore pire puisque les nostalgiques n'auraient pas à faire l'expédition et ils seraient donc parfois certaines mesures reviennent en boomerang et ne produisent pas l'effet escompté. Voilà, mais bon, il n'est pas trop tard. Après, c'est toujours quelque chose de très sensible et très délicat.
Et avec les 10% annoncés pour le parti Vox aux législatives espagnoles à la fin du mois d'avril, pas sûr que le sujet perde en sensibilité, bien au contraire. Merci à Manuel Pellois, Lemita Diaz de Bégar, Elena Gadjou et Xavier Ladjointe pour leurs réponses. Merci à Caroline Fillette pour ses reportages. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.